Sur cette paracha-là, il y a la célèbre machloket entre Rashi et Ramban. Rashi, sur place, ici, il nous explique tout de suite que cette paracha n'est pas à sa place. C'est pas à sa place et il dit que c'est pas un cas isolé, il y a plusieurs parchiotes qui ne sont pas à leur place, c'est-à-dire ça correspond pas à la chronologie. Alors, parce que tout ça, c'est parce que il y a une marloquette en réalité sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a le Mishkan. Jusqu'à présent, quand les Avot voulaient approcher un korban, ils construisaient un autel et ils approchaient le korban. Pourquoi est-ce que maintenant, tout à coup, on a besoin d'un Torel présente, c'est quelque chose de très important. C'est la moitié du Sefer Shemot qui va être consacré à ça. Et c'est quelque chose qui va, c'est une construction, c'est une façon de voir les choses, etc., qui va nous accompagner sous la forme sous laquelle elle est décrite ici, jusqu'à la fin des tribulations du clan Israël. Et même quand les Bnei Israël vont entrer en Eretz Israël, on va garder cette structure de tente, etc. Sauf que, bon, on n'aura plus besoin de la faire se promener. Ça va s'arrêter, ça va se fixer en un endroit, plusieurs endroits successivement, jusqu'à ce que David ait l'idée de construire une résidence, un Beth Amikdash en dur, en pierre, et de ne pas le laisser sous forme de tente, et que ce soit son fils, pour d'autres raisons, mais c'est son fils qui va faire le travail, qui va construire effectivement le Beth Amikdash. Alors, est-ce que c'était bien? On ne voit pas que Hachem soit particulièrement joyeux de cette construction. Et c'est possible qu'en y réfléchissant, on se demande est-ce qu'on a vraiment gagné? Est-ce que la raison pour laquelle bon, David a Il a donné une raison pour laquelle il pensait que c'était plus de kavod pour Hachem si effectivement il avait une résidence en dur, quoi, quelque part, plutôt que sous forme d'une tente. Les hauts lieux, effectivement, c'était plutôt des tentes. Et donc, il y a tout un processus, si vous voulez, entre les autels domestiques et puis ensuite des hauts lieux collectifs en fait, puis ensuite à tel autre endroit, et qui à chaque fois la nouvelle formule élimine les autres jusqu'à ce qu'Hachem dise bon, la dernière formule c'est Beth Amikdash, mais et du coup il y aura plus. Il n'y a plus rien d'autre. On ne peut plus faire de korbanot ailleurs qu'au Beth Amikdash. Et maintenant que nous n'avons plus de Beth Amikdash, alors on ne peut plus en faire du tout. Alors c'est toute une question, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui faire le korban Pessah, etc. Il y a des discussions là-dessus. De facto, on ne le fait pas. Alors, il y a une marloquette entre Rashi et Ramban sur le pourquoi du Mishkan. Pour Rashi, le Mishkan, il est devenu nécessaire après le veau d'or. C'est pour ça qu'il dit que, bien sûr, ces parchiotes, elles ne sont pas à leur place, puisqu'on n'a pas encore parlé du veau d'or. Et donc, si le Mishkan vient réparer ou à la suite du veau d'or, mais il faut d'abord amène-nous d'abord l'événement veau d'or, et après, tu nous amènes la réparation. Pour Ramban, lui, le Ramban, il pense que, bien sûr, il existe toujours ce principe que la Torah n'est pas obligatoirement toujours conforme à la chronologie, mais en l'occurrence, ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est tout à fait à sa place, et sa place, c'est d'être juste après le Sinaï. En un mot, on va le voir un peu plus en détail, mais en un mot, pour le Ramban, le Mishkan, c'est un Sinaï portatif. C'est-à-dire, pour Ramban, le Sinaï, c'est pas quelque chose qui a eu lieu une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se recommence tous les jours. Certains arrangements, mais tous les jours. Et qu'est-ce que c'était la caractéristique du Sinaï? C'est qu'Hachem a parlé avec Moshe Rabbeinu, il a parlé avec les Bnei Israël. Eh bien, cet endroit-là où Hachem va parler avec Moshe Rabbeinu, Hachem va parler avec Moshe Rabbeinu dans justement le Mishkan. On verra exactement plus précisément, mais ce sera là-bas. Et donc, comme lieu de la réception de la parole d'Hachem, à ce moment-là, cette parole d'Hachem qui devient Torah, eh bien, c'est le Mishkan qui joue ce rôle-là. Donc, ça n'a rien à voir avec le veau d'or. Le veau d'or va venir perturber la chose, va venir effectivement brouiller un peu les cartes, mais l'idée de Mishkan n'est pas une idée qui n'existe que parce qu'il y a eu le veau d'or. Le Mishkan était déjà quelque chose de nécessaire, de penser, alors qu'il y a bien avant le veau d'or. Alors concrètement, quand est-ce qu'on a construit le Mishkan, effectivement, d'après le Ramban, ça va être un peu juste, quoi. Parce que si le Mishkan a été construit avant le veau d'or, alors je vous rappelle que le veau d'or, il a eu lieu quand les Bnei Israël étaient encore au Sinaï. C'est-à-dire, il y a l'événement, ce qui s'est passé le 6 ou le 7 Sivan, qui est que Hachem a parlé, il a parlé aux hommes, il a parlé à Moshe Rabbeinu. Et tout de suite après, Moshe Rabbeinu est monté sur le Sinaï pour recevoir les Louchot, recevoir la Torah, puisque les Louchot sont les représentants de la Torah, si on peut parler comme ça. Comme Rav Sadia Gaon l'a montré, toutes les mitzvot se rattachent aux Aseret HaDibrot. Donc les Aseret HaDibrot sont un représentant de, en tout cas des mitzvot, de toutes les mitzvot de la Torah. Mais si ça a lieu pratiquement dans les 40 jours, si vous voulez, que pendant lesquels Moshe Rabbeinu est absent, et enfin pendant ces 40 jours les Bnei Israël vont fabriquer le veau d'or, et si le Mishkan a été construit après le Sinaï, après le 6 Sivan, Et donc, il y a un laps de temps maximum de 40 jours. Et donc, c'est là-dedans que, dans ce laps de temps-là, que les Bnei Israël ont reçu les ordres concernant la construction du Mishkan. La construction a peut-être duré plus longtemps, mais en tout cas, l'idée Mishkan, elle a été énoncée à ce moment-là, dans ce court laps de temps. On aurait pu imaginer, enfin, d'abord il faut dire la chose suivante. La question qui se pose, c'est avant le veau d'or, le Mishkan, c'est quoi? C'est la résidence d'Hachem. Donc quand on construit le Mishkan, on construit un Mishkan qui est là pour permettre à Hachem d'être, comme on dit, la Shrina. Tartonim, c'est-à-dire dans le monde d'en bas. Hachem veut être dans ce monde-ci, et pour être dans ce monde-ci, il faut que les Bnei Israël lui construisent, on verra des midrashim, etc. Enfin, il y a des midrashim, lui construisent une espèce de résidence qui permet à Hachem d'être toujours auprès des Bnei Israël. Et auprès de la Torah aussi. Après le veau d'or, et donc pour Rashi essentiellement, le Mishkan, c'est un lieu où on apporte des korbanot. C'est un lieu où on va avoir la possibilité d'avoir kapara pour le veau d'or et plus généralement pour les fautes. Et donc, le Mishkan, d'une certaine manière, pour Rashi, le Mishkan, il est pour nous. Alors que pour le Ramban, au début, en tout cas, avant le Chet HaEgel, le Mishkan, il est pour Hachem. C'est la résidence, c'est Hachem qui veut un Mishkan. Pas pour nous, directement. Et après, il y a un chamboulement. Ça veut dire que ce Mishkan, qui était la résidence d'Hachem, il devient aussi l'endroit où nous, on va apporter les korbanot à Hachem pour obtenir la kapara. Les korbanot sont essentiellement reliés à la notion de kapara. C'est-à-dire, la kapara, c'est de laver les fautes. Et donc, ça veut dire que pour Ramban, il y a Mishkan en version avant le veau d'or, et ensuite une autre version de ce même Mishkan après le veau d'or. Alors que pour Rashi, c'est présenté comme ma résidence, etc. Mais c'est essentiellement après le veau d'or. Ça veut dire quelque part, essentiellement, c'est la Kapara. Et tel qu'on le décrit d'ordinaire, en disant que le Mishkan, on l'a construit, on a reçu les ordres concernant la construction le lendemain de Yom Kippour. Et on a immédiatement commencé la collecte des matériaux nécessaires pour construire ce Mishkan. Le Ramban va dire quelque chose de très important. Il va dire, qu'est-ce que c'est que la Géoula? Bon, on a l'habitude de considérer la Géoula, c'est quelque chose qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte. Hachem nous a Galti, je vous ai libéré, je vous ai sauvé. Le Ramban dit, la Géoula, elle n'a pas eu lieu au moment de la sortie d'Égypte ou au moment du passage de la mer. Elle n'a même pas eu lieu au moment du Sinaï. La Géoula véritable, elle a eu lieu à partir du moment où on avait le Mishkan. Parce que ça veut dire que on a le Sinaï tout le temps. Le Sinaï est très important, Matan Torah, et il y a toujours cette idée de Bechol Yom Yihyu Be'enecha Kechadashim. On dit ça sur toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot doivent être à nos yeux, chaque jour, comme si elles venaient de nous être données. C'est pas qu'on revient à zéro à chaque fois, mais c'est cumulatif. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait la. On pourrait dire, bon, c'est trivial. Le camarade Héraclite, il a déjà dit quelque chose de ce genre-là. Il l'a pas dit sur la Torah, mais qu'effectivement, il faut dire que chaque jour, les divrei Torah sont quelque chose de nouveau pour moi, essentiellement parce que les mitzvot de la Torah elle-même, elle dépend de moi. On a déjà dit que les divrei Torah sont comparés à des braises. Et si vous voulez produire du feu, il faudra souffler sur les braises. Mais quand vous soufflez sur les braises, vous soufflez avec votre souffle. Il n'y a pas deux souffles comparables. Le souffle de chacun, il dépend de où est-ce qu'il va aller le chercher en lui, il dépend même de sa morphologie, etc., la façon dont il peut sortir, etc. Donc, le souffle, c'est mon souffle. Par conséquent, le feu que je produis à partir de ces braises qui sont à la disposition de tout le monde, je vais avoir un feu qui n'est que le mien. Personne d'autre n'a le même feu. Puisque dans ce feu, il y a mon souffle. Et donc, cette idée, c'est que mon souffle n'est jamais le même. Mon souffle, il est riche des expériences que j'ai faites hier, de la façon dont j'ai respiré, dont j'ai inspiré, expiré, etc. Façon dont j'ai mangé, dont j'ai réfléchi, les mouvements que j'ai faits, etc. Tout ça modifie mon souffle. Donc chaque jour, je suis différent et je souffle de façon différente. Et par conséquent, les divrei Torah que je vais produire aujourd'hui n'ont rien à voir. Quand je dis rien à voir, ça veut dire, c'est pas quelque chose qui a rien à voir du tout. Mais c'est quand même construit, c'est un nouvel étage construit sur la construction que j'avais faite jusqu'hier. Et ce matin, quand je me réveille avec une possibilité de modifier, d'ajouter un étage supplémentaire, si je m'occupe de Torah. Je fais des mitzvot. Il y a quelque chose qui est presque stérile, qui est ce qu'on appelle mitzvot anashim melumada. Ça veut dire les gens qui font les mitzvot parce que par habitude simplement. Mais bon, ils le font parce que c'est comme ça qu'on fait. Mais il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'enrichissement. Il n'y a pas de questionnement. Voilà, c'est ce qu'on fait. On fait comme ça. Alors, il y a une certaine continuité dans les mitzvot, et puis il y a la façon spécifique de aujourd'hui. Et donc, le Sinaï du. Le Sinaï, quand il devient portatif, c'est-à-dire quand il devient le Sinaï de 1 an après le moment où les Bnei Israël se trouvaient au mont Sinaï, mais disons l'expérience Sinaï, elle doit être renouvelée C'est-à-dire écouter la parole d'Hachem. Se mettre dans la situation de proximité pour pouvoir entendre la parole d'Hachem. La proximité, la dvekout, ou d'accord, qui permet d'étudier la Torah et de faire les mitzvot d'une autre manière. Et pour Ramban, la Géoula, c'est seulement quand on est arrivé là. Il y a des endroits où il compare, il dit, on veut obtenir exactement la même chose que ce que les Avot avaient. Cette proximité qu'ils avaient avec Hachem, on la retrouve justement dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est comme la tente qu'avaient Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, etc. Avec la même structure. Vous savez bien qu'il y avait, on dit toujours, on le dit surtout sur la tente de Sarah, il y avait au-dessus de la tente de Sarah, il y avait un petit nuage, une espèce de nuée. Cette nuée, elle se retrouve dans le Mishkan. Au-dessus du Mishkan, il y a aussi la nuée. Quand on a retrouvé tout cela, dit Ramban, OK, ça veut dire, c'est ça la Géoula. On s'est retrouvé dans la même situation que les Avot, quelque part. Pas complètement, puisque nous, la Torah, elle nous a été donnée, et eux, elle n'a pas été donnée, ils l'ont trouvée tout seul, en fait. Alors, le Mishkan, il va être construit par le clan d'Israël. Pour le construire par le clan d'Israël, il faut que tout le monde participe. Donc, on aurait pu penser que puisqu'il y a là il y a une construction du clan d'Israël, cette construction, elle doit être faite par tout le monde de la même manière. Et donc, on va prélever un impôt. Mais ça serait quand même pas non plus juste parce que l'impôt, il va peser de façon différente selon que les gens sont pauvres ou riches. Si on dit que c'est le même impôt, la même contribution. On a cette idée dans Martit HaShekel, c'est comme ça. Tout le monde amène le même Martit HaShekel. Mais là, c'est pas comme ça. Et puis, il y a effectivement dans le texte de ce prélèvement. Trouma, ça veut dire prélèvement. Donc, Moshe Rabbeinu reçoit un ordre d'Hachem. Dis au Bnei Israël, Veikru li Trouma. Ils prendront pour moi. Donc c'est pour moi. C'est pas ils prendront simplement. Le texte aurait pu porter simplement Vikru Truma. Ikruli, pour moi. Mais et Kolish Asherit Venolibo. Toute personne que son cœur incitera à donner. Donc là, on a l'impression que le don en question que chacun va apporter en tant que matériau avec lesquels on va construire le Mishkan, ça dépend c'est la volonté de chacun, la motivation de chacun. Chacun selon son cœur, comme on dirait ici. Mais le verset s'arrête pas là. Le verset dit, Tikru et Trumati. Vous prendrez ma Truma. Ça veut dire ma Truma. Prendre, ça veut dire Bal Kocho. Quand on prend quelque chose, c'est même si l'autre n'est pas d'accord. Je prends. Alors, on peut dire, on veut que ça soit volontaire. Et puis ensuite, on dit, mais on va le prendre. Alors, on peut expliquer en disant la chose suivante. Imaginez quelqu'un, à un moment donné, à un moment d'élévation, Yom Kippour, Yahrtzeit, ou à un moment, à une naissance, ou à quelque chose d'important, la personne, elle ressent le besoin de donner quelque chose. Et donc, elle décide qu'elle va donner une somme importante à la Tzedaka. Importante pour elle-même, pour elle. Et puis après, quand il faut donner, non, mais je vais pas donner aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de l'argent, je donnerai plus tard. Et non, mais finalement, c'est quand même un peu beaucoup. J'ai bien des obligations familiales, etc. Et finalement, il change d'avis. Il va pas donner, il n'a plus envie de donner. Mais maintenant, s'il s'est engagé publiquement, alors le Bedin va venir et va lui dire, tu as fait un neder, tu as fait un vœu, enfin, tu as fait une choua, un vœu, peu importe. Il faut que tu payes maintenant. Tu dois payer. Donc maintenant, on prend. Et la question qu'on peut poser, c'est comment est-ce qu'on va considérer ce qu'on prend là? Est-ce que c'est encore considéré comme la suite de sa générosité initiale? Ou le fait qu'on ait dû maintenant le prendre, l'obliger à donner, est-ce qu'on oublie la générosité initiale? Et on voit simplement, voilà, quelqu'un et on lui a pris. Alors, a priori, on va considérer que c'est encore volontaire. La volonté initiale, la générosité initiale, elle reste là. C'est juste que maintenant, il y a des accidents qui font que il a moins envie de donner. Mais au fond de lui-même, il reste encore ce même bonhomme qui voulait donner. On pense tout de suite, quand on entend ça, on pense tout de suite à l'histoire du guet. Je rappelle pour mémoire, quand une femme se marie, d'une certaine manière, elle aliène sa liberté. C'est-à-dire qu'elle entre dans un couple et d'une certaine manière, elle ne pourra pas en sortir autrement que par un. Enfin, il y a deux possibilités d'en sortir. C'est ou bien si le mari meurt. Bon, mais ça, c'est pas. On ne parle pas de quelqu'un qui va assassiner le mari. Parle pas de ce genre de choses. Et l'autre moyen, c'est de donner un guet. Donc ça veut dire que la femme, elle dépend de l'homme pour lui donner son guet. Est-ce qu'elle a accepté au départ? La Torah, elle n'est pas faite pour faire régner l'ordre dans la cité. Ça veut dire que d'une certaine manière, la Torah, elle n'envisage pas que quelqu'un ne veuille pas donner le guet quand ça marche pas. Enfin bon, il est quand même prévu. Alors, le problème, c'est la femme, elle peut pas, mais pourquoi elle pourrait pas engager les gros bras qui vont dire à son mari, tu donnes le guet ou alors il va t'arriver des petits problèmes. Il y a des milieux dans lesquels il y a ce genre de menaces, mais il faut les. Le problème, c'est que si on obtient un guet de cette manière-là, ça s'appelle guet meoussé, c'est un guet qu'on a obtenu par la contrainte. Et il vaut rien. Ça sert à rien. Personne ne va épouser une femme qui a un guet qu'elle a obtenu par la contrainte. Donc ça ne lui servira à rien. Il faut que le bonhomme veuille le donner. Mais il y a un certain cas où le Beddin juge que le mari doit donner le guet. Et il y a bien sûr des maris qui, même si le Beddin pense qu'il doit donner le guet, ils ne vont pas le donner. Alors, dans ce cas-là, on va pouvoir frapper le bonhomme jusqu'à ce qu'il dise, OK, je donne le guet. Mais à quoi sert ce guet si. Mais dans ce cas-là, le guet n'est pas invalidé. Pourquoi? Le Rama m'explique. En vérité, chaque juif, au fond de lui-même, il veut faire ce que la Torah demande. Mais bon, il y a le serara, etc., du kavod, toutes sortes de choses qui font que des fois, il n'a pas envie. Alors, les coups de bâton qu'on va lui donner, ils servent seulement à enlever ce truc qui ne laisse pas la volonté profonde, la possibilité, à cette volonté profonde, la possibilité de s'exprimer. Et quand il dit oui, finalement, c'est parce qu'on est arrivé à la couche intérieure de celui qui veut faire ce que la Torah, c'est-à-dire veut faire ce que le Beddin a dit qu'il devait faire. Là aussi, on pourrait dire que il a voulu donner, et après, il a un peu changé d'avis. Alors, on va le ramener à cette position qui était la sienne. C'est, on lui fait pas faire quelque chose qu'il n'a jamais voulu faire. Il va faire quelque chose qui, à un moment donné, il a voulu faire, et que maintenant, pour des circonstances, bon, qu'on peut comprendre ou pas comprendre, peu importe. Mais maintenant, il s'est engagé, donc il faudra qu'il le donne. Donc, il y a cette double démarche dans le fait de donner. Alors, sur le véhicule, lit. Rachid dit li lishmi, c'est-à-dire pour moi. Dans la version du Ramban dont on a parlé, où le Mishkan c'est pour Hachem, moi je veux avoir une résidence dans le monde d'en bas. Je veux être auprès des Bnei Israël, auprès de la Torah. La Torah me représente et les Bnei Israël ont un contact avec la Torah, c'est un contact avec moi. Et donc, je vais être là. Alors ensuite, on dit, voilà les matériaux dont on a besoin et qui sont énumérés ici. Et au Passouk Kret, on a la phrase très célèbre, Vasuli Mikdash, Veshachantim Betocham. Ils me feront un Mikdash, un sanctuaire. Veshachanti, et je résiderai. C'est-à-dire, ça sera aussi une résidence. Mishkan. C'est la même. Bon, c'est Veshachanti Mishkan. Et puis Veshachanti Betocham. Alors, c'est quoi ce pluriel? Où est-ce qu'il va résider? Il va résider dans le Mishkan, dans la tente. Donc, ça devrait être un singulier. Veshachanti Betocho. Pourquoi est-ce qu'ici on dit tout à coup Betocham? Betocham, le pluriel, correspond à Vasu, qui était lui aussi au pluriel. Vasuli, ils me feront. Betocham, c'est au sein des Bnei Israël. Je vais résider au sein des Bnei Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je vais résider au sein des Bnei Israël? Si c'est pour nous dire que le Mishkan va être au milieu de toutes les tribus, c'est trivial, on n'a pas besoin de le dire, parce que il n'y a aucune Avamina. Personne ne peut penser que le Mishkan va être plus proche d'une tribu que des autres. C'est sûr qu'il doit être à la même distance, en quelque sorte, de toutes les tribus. Et donc, il va être au milieu. Donc, on n'a pas besoin d'un verset comme ça. Donc, en fait, quand on dit Betocham, le seul moyen, en quelque sorte, de rendre compte de ce pluriel, c'est la dracha de dire, je résiderai dans le cœur de chacun. Mais si Hachem veut résider dans le cœur de chacun, alors pourquoi il a besoin qu'on fasse un Mishkan? Pourquoi on doit construire une tente avec toutes sortes de mobilier et tout? Dans le cœur, c'est tout, ça suffit. Alors on va comprendre que il était nécessaire que les Bnei Israël construisent quelque chose. C'est-à-dire, il faut que il y ait de l'action, en fait, des actes de construction. Pas simplement que ça entre dans leur cœur. La Torah, elle peut entrer, Hachem peut la faire entrer dans le cœur. C'est ce qui s'est passé au Sinaï. Quand ils ont entendu la première parole, comme vous savez, ils ont été projetés en arrière, ils sont morts, ils ont ressuscité avec cette parole en eux. C'était devenu une partie intégrante de leur corps et de leur âme. La deuxième parole rebelote, projetée en arrière, la mort, résurrection, et ils se retrouvent avec les deux paroles en eux. Et si on avait entendu toutes les paroles d'Hachem directement, l'histoire était terminée, parce qu'on aurait eu toute la Torah en nous, donc on n'aurait pas pu faire autrement que de faire ce que la Torah demandait. Et donc, bon, ça s'est pas fait. Mais on voit très bien que les paroles de Torah sont des paroles qui doivent être en fait bouleversantes. Si elles ne bouleversent pas sur le modèle de la parole d'Hachem au Sinaï, si elles ne modèlent, alors elles n'ont pas cette puissance, mais elles doivent être du même ordre. Si elles ne bouleversent pas, ce n'est pas de la Torah. Et c'est pour ça que ça doit être un renouvellement permanent. Ça bouleverse à chaque fois. À chaque fois, à nouveau. À nouveau frais, si vous voulez. Alors, il y a là deux termes. Il y a Mikdash. Et il y a Meshachanti qui fait référence à Mishkan. Et on nous dit dans Chazal que Mishkan et Mikdash, c'est la même chose. Mais bien sûr que cette chose-là, elle a deux noms parce qu'elle a deux fonctions. Et donc, il y a deux notions en quelque sorte. Si c'est Kadosh, si c'est saint, sacré, alors ça n'est pas lié au temps. Donc c'est éternel. Si c'est une résidence, la résidence, c'est on réside pour un certain temps, en un certain endroit, on ne réside pas pour l'éternité au même endroit. Donc la résidence, elle introduit une notion de finitude, si vous voulez. Donc le Mishkan, il est à la fois le Mishkan Mikdash, il est à la fois éternel et aussi limité dans le temps. Et le Beth Amikdash, excusez-moi, je devrais d'abord dire le Mishkan. Il n'est jamais tombé aux mains des ennemis. Le Mishkan, quand on n'en a plus besoin, parce qu'on est arrivé en Eretz Israël, etc., ce Mishkan-là, on l'a enfoui dans la terre. On l'a enterré. On a retiré de la circulation. Donc il a eu lieu final, il est à la fois éternel parce qu'il est d'une certaine manière encore là. Mais il n'est plus à notre portée. Et le Beth Amikdash, que Shlomo HaMelech a construit, lui aussi, il a eu une durée de vie limitée. Il était détruit. Mais comme lieu de la parole d'Hachem, elle a pris des vêtements différents. La parole d'Hachem, elle nous a été transmise par les prophètes, et puis ensuite, elle a été transmise par les Chachamim. C'est toujours la parole d'Hachem. Hachem nous parle. Il nous parle. Il nous parle lorsque nous parlons, il nous parle aussi, et nous lui parlons de deux manières. Nous parlons avec Hachem par la tfila, par la prière, et on parle avec Hachem par l'étude de la Torah. On a la parole d'Hachem dans la bouche. Donc ça continue. Sous une autre forme, ça continue. On a même trouvé comment remplacer les korbanot. On a dit qu'on allait remplacer Parim, les taureaux, par le mouvement de nos lèvres, en fait. Le Shalma Parim Sfatenu. C'est-à-dire, nous, par la parole, par le geste de nos lèvres, on va obtenir le même résultat que celui qu'on pouvait obtenir en approchant des taureaux, en approchant des corbanotes. Vous me direz, mais les corbanotes sont des gestes. Et justement, comme vous savez certainement, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que la parole est un acte? Pour mémoire, j'explique d'où ça vient. Il y a une halakha qui dit que on n'a pas le droit de museler un bœuf quand il est en train de fouler le blé. Il est en train de tourner, il est en train de fouler. C'est totalement inadmissible de l'empêcher de temps en temps de prendre un peu de ce blé qu'il est en train d'écraser. Il n'a pas le droit de le museler. Alors la Gemara, elle demande, museler, c'est un maasé. Donc celui qui transgresse, il transgresse en faisant un maasé. La Gemara, elle demande, qu'est-ce qui se passe si vous avez votre bœuf qui est en train de fouler le blé, et chaque fois qu'il baisse la tête pour essayer de manger, vous lui hurlez dessus tellement violemment qu'il se retire. Est-ce que vous avez transgressé l'interdit de museler, d'empêcher le bœuf de manger? Et plus précisément, est-ce que vous allez recevoir des makot? Parce que normalement, on reçoit des makot si on muselle. Mais là, si on considère que de crier, ça n'est pas considéré comme un acte, donc c'est lav shein bo maaseh, c'est un lav qu'on n'aura pas transgressé en faisant un maasé, il n'y aura pas de makot. Et la Gemara, elle dit que le mouvement des lèvres est considéré comme un acte. Sfateinu. Et donc, ça veut dire, quand on dit Neshama parim sfateinu, ça veut dire que non seulement on va remplacer les taureaux ou enfin les korbanot par l'étude des parchiotes qui parlent de ces corbanotes, mais en plus, cette étude, elle aura la dimension d'un acte. Parce que la Torah, ça ne s'étudie pas avec les yeux seulement. Ça s'étudie avec la parole. Et donc, dans cette parole, il y a le mouvement des lèvres. Et donc, on récupère le maasé aussi. Et ensuite, on va fabriquer le Mishkan. Il va fabriquer tout le mobilier du Mishkan et tous les ustensiles, tous les instruments aussi. Et tout ça, ça va être prescrit. C'est-à-dire, on va nous prescrire comment, dans quelle matière, dans quelle dimension on va fabriquer ça. Et même le comment. Il y a beaucoup de choses qui étaient difficiles à imaginer. Alors Hachem a montré, il a montré sous forme d'un feu dans le ciel, il a montré à Moshe Rabbeinu comment ça devait être. Et comme ça, Moshe Rabbeinu savait exactement comment ça devait être. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que ça a été montré sous forme de feu. Le feu, c'est quelque chose qui s'élève, en fait. C'est pour ça que il y a tout un travail du feu sur le Mizbéach. Mais le feu est aussi, il peut être aussi un feu complètement destructeur, qui va casser toutes les structures, effectivement. Et donc, montrer le Mishkan, par exemple, et tout le mobilier, tout le kélim, effectivement, sous forme de feu, ça indique bien le fait que le Mishkan peut nous permettre de faire des choses absolument extraordinaires, comme toutes les mitzvot d'ailleurs. Ça permet de construire les mondes spirituellement aussi. Mais si on ne fait pas bien la avoda, le risque du Mishkan, et surtout le risque quand c'est un binyan, lorsqu'il y a une construction en dur, alors il y a ri un risque que ça devienne un temple. Malheureusement, je ne connais pas d'expression adéquate pour traduire Beth Amikdash. On traduit toujours ce Beth Amikdash comme étant un temple, mais pour moi, le mot temple est tellement connoté à Avodah Zarah que j'ai du mal à l'utiliser. Enfin, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre expression à ma connaissance. En tout cas, nous avons vécu en grande, on a vécu la destruction du Beth Amikdash. Mais on a aussi vécu l'utilisation du Beth Amikdash comme un temple. Le Galout Yavan, l'exil dans Yavan, c'était ça. Transformer le Beth Amikdash en un temple grec. Donc c'est un temple d'Avodah Zarah. Mais, bon, là, c'est clair que je transforme. Mais en vérité, le risque d'en faire un temple, il est toujours là. Parce que si vous regardez ce que les Neviim, ce que les prophètes reprochent au Bnei Israël, sans arrêt, ils disent au nom d'Hachem que je n'ai rien à faire de vos Korbanot, de Shabbat, de Rosh Chodesh, etc., si vous vous conduisez en dehors du Beth Amikdash comme des crapules. Parce que sinon, si c'est le cas, alors, quand vous venez au Beth Amikdash, vous apportez des Korbanot, c'est de la corruption, c'est dégradant. C'est que, voilà, je paye ma cotisation, du coup, je peux faire ce que je veux. Les goyim, ils ont inventé une notion d'indulgence. Mais Hachem dit, c'est ça que vous faites. Vous venez payer votre cotisation régulièrement au Beth Amikdash. Mais ensuite, vous conduisez pas du tout selon les valeurs de la Torah. Donc, c'est complètement dégradant. Vous transformez le Beth Amikdash en un temple, un endroit où on vient payer sa cotisation. Ça, est possible que justement le fait que le Mishkan soit régulièrement démonté, remonté, etc., ça donnait une autre dimension. Ce n'était plus possible de le confondre avec un temple. C'est pour ça que, bon, c'était plus possible à partir du moment, on n'est pas le démonter, remonter simplement. À partir du moment où on était installé en Eretz Israël, mais peut-être que si on avait gardé la forme tente, ça aurait été moins possible de transformer cette tente en un temple grec. Le Beth Amikdash, enfin le Mishkan, pardon, il va être, en tout cas pour le Ramban, il va être construit autour d'un noyau fondamental. D'une certaine manière, autour d'un noyau et tout le reste, c'est l'accompagnement en quelque sorte. Le noyau en question, c'est la première chose qui est indiquée, c'est Vasu Aaron Atseshitim. Amataim vachetzi orko, amataim ve'ama vachetzi rochbo, ve'ama vachetzi komato. Ve'tzipita oto zahav taor, mibayit u'michutz, tetzapenu. Ve'asita alav zer zahav saviv, yatzakta lo ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו, שתי טבעות על צלו האחת, או אחת, פרדום, ושתי טבעות על צלו השנית, ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבאת את הבדים בטבעות, על צלות הארון, לשאת את הארון בהם, וטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסרו ממנו. ונתת על הארון את העדות, אל הארון את העדות, אשר אתן אליך, ותפרה עושי כפורת, הכובך, זהב טהור, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, בדמו, ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת, כרוב אחד מקצה מזה, כרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת תעשו את הכרובים, על שני קצותיו, ועשו הכרובים, והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על כפורת, על הכפורת, פניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הכרובים, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ולארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך, El Béni Israël.
En français, Rav, s'il vous plaît.
Non. Non, non, non.
Non, bon, alors, comme vous voulez.
Pas question, pas question.
Comme vous voulez, il n'y a pas de
pas
problème.
Question, pas question.
Bravo, c'est beau.
En italien, d'accord, mais pas en français. D'accord. Alors, ce noyau central, c'est donc Aaron. Une armoire, une boîte en fait. C'est en fait trois boîtes, comme des poupées russes. Une petite boîte en or. Une moyenne boîte en bois d'acacia. Je ne sais pas pourquoi on traduit toujours Atsechitim en acacia, mais ça a l'air d'être admis par tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que je ne connais pas du tout les qualités de l'acacia. J'ai fait un Malavé Malka où j'ai effectivement dit que c'était de l'acacia, parce que tout le monde dit que c'est de l'acacia, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris d'où Atsei Shittim ne donne absolument rien comme indication sur le genre de bois. Je ne sais même pas est-ce qu'il y avait de l'acacia à cette époque, dans cette région-là, je ne sais pas. Je ne sais pas où pousse l'acacia par de face de. Face de par préférence, ben aujourd'hui on peut interroger pour savoir, je ne sais pas, si quelqu'un sait, qu'il se lève et qu'il le dise, d'accord? Sinon qu'il se teste, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, C'est comme ça qu'on présente les choses. Et donc, et une grande boîte en or. Vous mettez les trois boîtes, la petite boîte dans la moyenne dans la grande. Et maintenant, de l'extérieur, vous avez l'impression que tout est en or. Vous voyez pas que l'intérieur, le sandwich, vous avez du bois, d'acacia. Et ensuite, sur cette boîte, vous allez fabriquer un couvercle en or aussi. Et on va prendre dans la matière de ce couvercle, on va étirer cet or, je sais pas, pour en faire deux krouvim, pour en faire deux anges. Ces anges, ils sont un peu spéciaux. Il y en a un qui va représenter symboliquement le Klal, enfin, Kadosh Barouh, et le deuxième, le Klal Israël. Et ces anges vont être mobiles, susceptibles de permuter, de se tourner comme ça. Et ça va indiquer la proximité du clan d'Israël avec Hachem. C'est-à-dire quand ils se font face, ça veut dire que celui qui représente le clan d'Israël reçoit toute la lumière émise par celui qui, enfin, dans le symbolique, quoi. Alors maintenant, si les Bnei Israël se détournent, alors lui aussi, l'autre se détourne aussi du même angle. Donc, ils sont détournés de deux fois l'angle en question. Et donc, le clan d'Israël savait en permanence où il en était dans sa relation avec Hachem. Quand je dis qu'il savait, c'est un gros mot pratiquement parce que personne ne voyait jamais ça. Le Aaron en question, il est dans le Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, c'est la partie du Mishkan dans laquelle personne n'entrait jamais, sauf le Kohen Gadol à Kippour. Donc, en dehors de ça, personne ne voyait jamais le Aaron en question. Pour ne rien dire de ce qui est écrit que dans cette boîte, tu vas mettre les tables de la loi, les tables, les deuxièmes tables, celles qu'on a reçues finalement. On va mettre aussi les brisures des premières et on va mettre un Sefer Torah. On ferme, plus personne n'a jamais ouvert la boîte. On n'avait pas le droit de l'ouvrir, à ma connaissance. Aaron n'a jamais, quand le seul qui était en présence de cette boîte, c'était Aaron. Et Aaron à Kippour, il n'a pas, je crois pas qu'il y ait dans la Avoda la possibilité d'ouvrir la boîte en question. Et c'est encore plus fort, c'est que, comme c'est écrit dans le texte, Hachem a dit à Moshe, quand je te parlerai, tu iras donc dans le Mishkan, comme on a dit, et la voix que tu vas entendre, elle semblera sortir d'entre les deux Krouvim. Mais Moshe, il voyait pas ces Krouvim. Lui, il n'est jamais entré dans le Kodesh HaKodashim. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire que ça semblait venir d'entre les Krouvim. Comment ils pouvaient le savoir? Ça venait probablement de là-bas. Et ils savaient, on savait où étaient les, où ça devait être, puisque on savait, vous savez, entre le Kodesh et le Kodashim, le Kodesh à Kodashim, il y avait un rideau. La séparation, c'était un rideau. Et ce rideau-là, il était, bon, évidemment, c'est comme tout rideau qui se respecte, il était là, vertical, mais quand on a fabriqué par la suite le Shulchan, etc., on a construit le Shulchan de telle sorte qu'il soit transportable. Et on n'a pas mis des roulettes, on a mis des anneaux dans lesquels on a enfilé des barres, telle sorte qu'on pouvait transporter le Shulchan avec, sur les épaules, avec les barres en question. Il y avait aussi des barres pour transporter la petite boîte, enfin la boîte en question, le harom. Mais quand on s'arrêtait, les barres qui servaient au transport de la table du shulchan, on les enlevait. On les remettrait quand il fallait se déplacer. Par contre, les barres du haron, on les laissait même quand on campait, même quand on restait longtemps. Et par contre, on les faisait arriver de telle sorte qu'il y ait deux pointes dans le rideau. Du côté du Kodesh, on voyait deux pointes. Hazal dit, c'est comme les pointes, comme la pointe de seins de femme, en fait. Donc, on savait où étaient les barres. Donc, comme on savait quelles étaient les mesures du Aaron, on savait où ça venait, mais bon, alors, ça voudrait dire que ça semblait venir de l'endroit qu'on évaluait être Benakrouvim. Alors disons que Moshe Rabbeinu, lui, il savait exactement où c'était, et donc Hachem lui a dit, ça viendra de là-bas. Donc en fait, ce n'est pas un fait d'expérience. Hachem l'a annoncé que ça viendra de là-bas. Donc la première chose qu'on a construite, c'est cette. Ce haron. En particulier, vous savez, on a donné le matériau, c'est de l'or ou du bois, d'acacia, et ce qu'on nous a aussi dit, donc qu'on allait laisser les barres, j'ai perdu le fil. Ah oui, je voulais dire que ce qui était remarquable, c'est que les dimensions qui sont données sont des dimensions, aucune des dimensions n'est un chiffre rond. C'est toujours des demi. C'est 2,5, 1,5. C'est important de voir que il y avait des dimensions qui étaient seulement demi. Ce ne sera pas le cas pour tous les kélim, mais pour le Aaron, c'est clair, c'est des problèmes. Les dimensions sont avec des demi-coudées, en fait. Et donc, c'est lui le centre, en fait. C'est ce qui a été construit en premier, parce qu'en fait, tout le reste, c'est presque un accompagnement tous les autres kélim. Alors il y a dans le Kodesh HaKodashim, il y a seulement ça, il y a seulement le Aaron. Et de l'autre côté du rideau, au nord et au sud, il y a deux choses importantes. Il y a au nord, il y a le Shulchan, et au sud, il y a la Menorah. C'est-à-dire, vous avez la menorah qui est le spirituel et le shulchan qui est le matériel. Le shulchan, c'est cette table sur laquelle il y a les 12 pains de proposition, comme on dit. Pourquoi? Je sais pas. Et c'était les pains qu'on mettait Shabbat, 12 pains, et qui restaient de Shabbat en Shabbat, et qui restaient toujours frais. C'est un pain qui était toujours frais, même 8 jours après. Et la menorah, c'est la menorah que Aaron allait, à Kohen Gadol, mais après d'autres, allumer tous les soirs. C'est une menorah à 7 branches, une centrale, et puis 3 de chaque côté. Et cette menorah, elle est aussi fabriquée à partir d'un seul lingot. Il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de filetage, on peut pas, c'est tout. Tout est étiré. Avec au milieu de la décoration, avec. Ça, c'est probablement infaisable aujourd'hui. Je veux dire, je sais pas si on pourrait faire une chose pareille. Ça consommait beaucoup d'or, tout ça. Bon, tout était recouvert d'or. Il y a en particulier trois choses que mon cher Abbé nous avait du mal à se représenter. Les trois choses, elles correspondent aux trois lettres du nom de Moshe. Le mem de la menorah, le shin, en fait, de Martita Shekel, Shekel. Ou bien d'autres disent, d'autres versions, disent que c'est les Shratzim. Vous savez, il y a dans les reptiles et autres insectes, etc., il y en a huit qui sont impurs. Tous les autres ne sont pas impurs. Bon, c'est tout un sujet, cette histoire des pourquoi c'est huit, et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, etc. Et le hé, certains disent que c'est le Hachodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Il y a d'autres versions. Là, Hachem a dû lui montrer spécifiquement, toujours probablement avec du feu, exactement de quoi il s'agissait. Mon cher Rabbi n'arrivait pas à se le représenter. Et ensuite, on va de proche en proche, de proche en lointain plutôt, on va faire tout ce qui entoure l'intérieur. On va faire une cour, on va faire le Mishkan, on va faire des parois tout autour, etc. Et le Klal Israël va camper. Les uns au nord, les autres au sud, les troisièmes à l'est et ensuite les quatrièmes à l'ouest. Chaque fois trois tribus, quatre fois trois tribus. Et c'est comme ça qu'ils vont camper systématiquement quand ils seront dans le désert. Et on nous dit aussi comment, quand ils vont se déplacer, comment on va ouvrir ce cercle. Pour les mettre, pour en faire file indienne en quelque sorte, savoir où on va mettre le transport du Mishkan. Le Mishkan, il va être démonté, il va être transporté sur des chariots ou par des gens qui vont porter, etc. Où est-ce qu'ils vont être dans la chaîne? Tout ça va être énoncé, ça va être prescrit. C'est-à-dire qu'on va introduire dans le désert une structure. Dans le désert, il n'y a pas de structure. Les Bnei Israël vont structurer, ils vont inventer quelque chose qu'on va appeler le Mahane Shechina, la résidence de la présence divine, c'est-à-dire le Mishkan. Et autour, il va y avoir les Kohanim, après les Levim, et après les Bnei Israël, en quatre fois. Comme on a dit, 4 x 3. Et dans l'Elvim, il va y avoir aussi les différentes familles, aussi réparties autour. Les Kohanim, tout le monde va être toujours des liens entre certaines familles de Levim et certaines tribus, plus particulièrement. Et ça va être important, par exemple, dans l'histoire de Korach. Korach était un Lévi et il était proche de la tribu de Réhouven. quand il a monté son complot, là, il a réussi à parler aux gens de la tribu de Reuven qui étaient, d'une certaine manière, ses voisins. Donc là, cet arrangement du clan d'Israël a fabriqué des relations privilégiées, si vous voulez, de voisinage de certaines tribus avec certains groupes de Lvivim, ou Anim, et pas avec d'autres. C'est pas qu'ils pouvaient pas être amis avec les autres, mais quand vous habitez à côté de ceux-là et pas à côté des autres, c'est sûr qu'a priori, il va y avoir certaines relations qui peuvent vous faire plus facilement. Voilà, on va s'arrêter là.